Esprit.
Entendre.
Esprit.
Comprendre.
Revue Esprit. Revue Esprit. Entendre le monde qui vient.
Le 9 février 2024, la revue Esprit recevait Justine Lacroix et Michel Fossel, philosophes, tous deux conseillers de la rédaction de la revue, à l'occasion du séminaire de formation continue de philosophie de la justice de l'École nationale de magistrature. La justice est une institution centrale de la démocratie et pourtant elle est sévèrement critiquée. Trop en retrait face aux violations des droits et libertés, face au déclin de la démocratie, ou au contraire, trop présente dans l'espace public, prenant la place des autres pouvoirs hérités des Lumières et du principe majoritaire ou de la volonté populaire qui gouvernerait une république. Pour comprendre ces débats, nous avons voulu interroger la notion de pouvoir en son cœur, de la relation qu'entretiennent la démocratie et le libéralisme.
Donc, sur les discussions sur le libéralisme et la démocratie sont marquées par des glissements sémantiques et notamment le terme que l'on entend beaucoup, je vais peut-être ouvrir la discussion là-dessus, que l'on entend beaucoup, c'est celui de démocratie illibérale, d'une démocratie qui pourrait ne pas être libérale, ce qui repose la question de ce qu'est une démocratie, de ce que serait le libéralisme, et ce qui pose un ensemble de questions vis-à-vis des droits également. Et il me semble qu'une convergence dans vos deux travaux est de prendre de la distance par rapport à ce terme et par rapport à un libéralisme qui donc d'une démocratie qui ne serait pas libérale ou d'un libéralisme économique qui se distinguerait d'un libéralisme politique. Et on peut peut-être entendre d'abord Justine Lacroix, si cela vous va.
Oui, merci, même si je crois que le premier qui a dit « la démocratie illibérale n'existe pas », c'est Michael Fossel, il faut lui rendre ce crédit. Alors, oui, en fait, je crois ce qu'on peut pointer aujourd'hui dans ce débat, enfin, l'usage de ce concept qui a fleuri un petit peu partout de « démocratie illibérale », c'est qu'on assiste, bien sûr, comme tout le monde le sait, à une déstabilisation de la démocratie elle-même. Mais nous, en tout cas moi, ce qui m'intéresse en tant que théoricienne du politique, c'est qu'il y a aussi une déstabilisation du concept même de démocratie. Et on a vu progressivement s'imposer cette idée qu'il y aurait au fond une opposition. D'un côté, on a l'état de droit, les libertés, et de l'autre, on a la démocratie qui est réduite à l'élection et au pouvoir de la majorité. Et donc je pense que notre effort, enfin Michel parlera pour sa part, ça a été de revenir sur les contresens historiques et théorique qu'accompagne une telle représentation. Et pour le dire, pour aller dire, on ne peut pas parler d'idéal de la démocratie ou de démocratie là où il n'y a pas respect de la pluralité des libertés. Et je ne parle pas ici seulement, comme on l'objecte souvent, de la démocratie moderne. Dès l'Antiquité, pour les penseurs de l'Antiquité, il était évident que le régime démocratique était associé évidemment pas au droit de l'homme comme on l'entend aujourd'hui, ce qui n'aurait aucun sens, mais était associé à une forme de liberté, à la liberté de vivre comme on l'entend, et c'est pourquoi d'ailleurs nombre de philosophes, et au premier rang desquels Platon, ont critiqué le régime démocratique, ce régime où chacun vit à sa guise. Voilà, c'était un peu sortir de cette opposition. D'un côté, on aurait la défense des libertés, la défense des droits humains, et de l'autre côté, non, la démocratie ne se réduit pas seulement au pouvoir de la majorité, à l'élection, mais suppose aussi voilà, ce respect des libertés. Je vais peut-être m'arrêter là pour faire un échange, pas me lancer dans une conférence en dépliant tout.
Oui, Michel Fossel.
Merci pour cette invitation. Bonjour à tous et à toutes. Effectivement, le risque de cette discussion, c'est que Justine et moi soyons d'accord à peu près sur tout. Mais enfin, on trouvera certainement moyen à discuter à un moment ou à un autre. Sur la notion même de démocratie libérale, donc effectivement, j'ai dit à un moment qu'elle n'existait pas. Ce qu'il ne faut pas entendre sous la forme que les États ou les régimes, plus exactement, que l'on désigne à travers cette formule, eux, n'existent pas, ils ne sont pas préoccupants du point de vue, justement, de la démocratie. Alors pour dire un mot quand même sur cette notion, il faut peut-être aussi voir à quel moment elle a été forgée, dans quel... Ah bon, finalement, ça marche pas. Pardon. À quel moment elle a été forgée, dans quel but. Alors, je dirais que son mérite, à mon sens d'ailleurs, son unique mérite, similaire en cela d'ailleurs au terme de populisme, c'est de nommer ce qui advient dans le présent, et tenter au fond de trouver une sorte de voie médiane entre le fait consensuel selon lequel rien n'advient de nouveau, tout irait dans le régime de la démocratie et le régime politique et démocratique comme d'habitude, et puis le retour, c'est surtout ça, à des notions que l'on se garde, et pour un certain nombre de raisons justifiées, le retour à des concepts comme fascisme, extrême droite, dictature, qui apparaîtraient comme tout à fait peut-être décalés, on y reviendra. Alors démocratie libérale, ça vise des régimes qui continuent à conserver le suffrage universel comme mode de légitimation ou de désignation des gouvernants, qui en apparence maintiennent le pluralisme partisan, mais qui, alors évidemment on l'a forgé en particulier, ou on l'utilise en particulier pour des régimes du type Hongrie ou jusqu'à récemment Pologne, mais qui, sur la question de la constitutionnelle, du respect des droits, et en particulier du statut des cours constitutionnelles, sont dans des offensives très négatives. C'est-à-dire, au fond, cette idée qu'il y aurait, dans les régimes qui peut-être nous menacent aujourd'hui, une sorte de mixte entre souveraineté populaire d'un côté, et donc de ce point de vue, cela resterait des démocraties, et puis atteinte des droits individuels. Alors pourquoi est-ce que cette conception me paraît, ou cette formulation, ou cette désignation me paraît éminemment discutable ? D'abord, parce qu'elle fait peser sur la démocratie le poids de la négativité, puisque finalement on demeurerait démocratique dans un État où les juges, l'autorité judiciaire par exemple, seraient radicalement remis en cause. Et puis d'autre part, ce qui pour un tropisme qui m'est propre est encore pire, au sens où du coup ce qui resterait véritablement positif, c'est le libéralisme. Bon. On entend ici évidemment le libéralisme dans sa pureté politique, les droits individuels. Ce qui évidemment pose un souci, un double souci, mais on développera sans doute, donc je vais simplement l'indiquer. D'abord, cette formule démocratie libérale, à mon sens, elle n'est pas philosophiquement tenable, et ce qui est peut-être pire, elle est aveuglante par rapport à ce qui précisément advient. Donc autrement dit, la raison pour laquelle on pourrait s'y référer, c'est-à-dire il faut bien nommer le nouveau, et c'est effectivement assez nouveau, en apparence du moins, de voir des gouvernants se réclamer en permanence du peuple contre les institutions. Donc ce qui est nouveau, d'ailleurs pas tellement nouveau, mais ce qui est propre à notre situation actuelle, y compris dans une certaine mesure en France, c'est de voir du cœur même des institutions, et du plus haut niveau des institutions, une remise en cause des institutions elles-mêmes, et en particulier des institutions juridiques et judiciaires. Mais pour autant, la question se pose de savoir si la démocratie peut se réduire à n'être que le suffrage universel, si la démocratie n'implique pas dans sa logique propre et dans ses exigences propres quelque chose qui relève justement, Justine l'a suggéré d'ailleurs, justement du respect des droits. Encore faut-il s'entendre évidemment sur la notion de droit. Faut-il abandonner les droits de l'homme au libéralisme ? Là-dessus, je pense que Justine pourra, puisqu'elle a beaucoup plus travaillé que moi sur cette question-là, développer. Et dernier, je pose un peu des graines, on verra si on développe un peu. Dernier aspect, égarant, j'ai dit, parce que cela me semble masquer, quand on parle de démocratie libérale, déjà il y a un point, je ne l'ai pas noté, mais c'est une notion qui me paraît, comme populisme d'ailleurs, assez suspecte, dans la mesure où elle est assumée par ceux comme Orban, enfin, qui a parlé lui-même de démocratie illibérale, ou Kaczynski en Pologne qui parlait, bon, c'est difficile à dire, d'impossibilisme légal. L'impossibilisme légal, c'est vous. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de loi parce que les juges, en quelque sorte, s'opposent à leur application. Bon, donc elle est partagée par ceux qui défendent ce genre de régime et par ceux qui les critiquent. Ce qui me paraît être déjà quelque chose d'un petit peu suspect. Et d'autre part, c'est égarant parce que cela ne permet pas de voir qu'il y a, et peut-être c'est aussi une notion substitutive que j'introduirai pour comprendre ce qui nous arrive, dans la logique que je qualifierais sinon de libérale, du moins de néolibérale, mais qui en tout cas implique cette fois-ci de prendre le libéralisme dans son extension économique, dans sa dimension économique et pas seulement juridique. Il y a dans le néolibéralisme tel que nous en sommes aujourd'hui, peut-être d'ailleurs en France un peu la queue de comète, des dimensions autoritaires, des dimensions qui pour le coup sont antidémocratiques, peut-être illibérales, donc vous voyez si vous dites néolibéralisme illibéral, là on voit tout de suite qu'il y a une difficulté, bon, que cette notion de démocratie libérale masque. Puisque précisément, elle fait, je l'ai indiqué, je m'arrête là, elle fait peser sur la démocratie, et c'est une vieille ancienne ça, que la démocratie a quelque chose de dangereux en elle-même, puisque finalement elle donne le pouvoir, Justine citait Platon, elle donne le pouvoir à un peuple irrationnel. Bon. Donc elle fait peser sur la démocratie la charge de la preuve, et comme si au fond le libéralisme était en mesure, même de point de vue strictement juridique, de nous sauver des excès, populaires ou des excès du suffrage universel. Donc au fond, cette notion, elle nous invite, qu'on partage, bon ce n'est pas mon cas, mais qu'on partage ou pas le fait qu'elle soit légitime, elle nous invite à réfléchir, et je crois que le moment est venu, hein, sans vouloir dramatiser, à réfléchir sérieusement sur ce que démocratie signifie, alors même que nous sommes encore dans peut-être la fin de ce qu'on peut appeler le consensus démocratique post-1945, c'est-à-dire le fait que pour la première fois dans l'histoire, les démocraties ont emporté une victoire militaire. Au fond, d'une certaine manière, en 1945, se produit pour la première fois quelque chose qui est une sorte de point anti-platonicien, c'est-à-dire que pour une fois, ce sont les démocraties qui sont les plus fortes, qui sont les plus puissantes, qui échappent à ce reproche qu'on leur adresse depuis la Grèce ancienne d'être le régime de la faiblesse. Bon. Ce consensus démocratique post-45, il existe encore, mais il existe peut-être de manière nominale. C'est-à-dire qu'on se réfère au mot démocratie, même ses adversaires les plus acharnés continuent à parler de la démocratie comme du seul moyen de désigner des gouvernants qui soient légitimes, mais du mot à la chose, évidemment, la distance est grande, c'est peut-être à cela qu'il faut aussi que nous pensions.
Alors, je vais juste me permettre de justement poursuivre là-dessus. Alors, cette question de la démocratie, l'essence de la démocratie, on va y revenir, mais il y a celle de libéralisme, que vous avez évoqué un peu avant, et cette difficulté qu'il y a même dans la manière de parler de ces réalités des transformations contemporaines, qui est le néolibéralisme et le libéralisme, un libéralisme que certains appellent autoritaire, ce qui est peut-être une contradiction dans les termes, et finalement, de quoi parle-t-on? Et Justine Lacroix, si vous le souhaitez.
Oui, alors... Bon, de quoi parle-t-on quand on parle de libéralisme? Moi, je vais peut-être le prendre au sens historique le plus strict. Ce qu'on appelle le libéralisme politique, c'est des doctrines politiques qui se développent à partir du début du XIXe siècle autour des cercles de Benjamin Constant et de Germaine de Staël. Alors, il est vrai qu'après, le terme libéralisme a été appliqué de façon rétroactive à d'autres auteurs tels que Montesquieu ou John Locke, qui ne se revendiquaient pas du tout comme libéral. Mais je pense que c'est important de revenir sur ces significations historiques. Un libéral au début du XIXe siècle, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui accepte les acquis de 1789, mais qui, après l'expérience de 1793, estime que c'est pas parce que le pouvoir vient du peuple qu'il ne doit pas être limité. Donc, au sein du libéralisme, il y a la défense de la libre initiative individuelle, hein, liberté d'association, liberté de la presse. Et il y a eu, tout au long du XIXe siècle, un rapport évidemment compliqué de ce libéralisme avec la démocratie. Ils n'ont pas toujours été du côté de la défense, c'est vrai, du suffrage universel. Je pense que aujourd'hui, un libéral qui se définir comme libéral sans être démocrate n'a plus de sens. Je veux dire, on considère que la démocratie est évidemment l'aboutissement de ce libéralisme politique bien compris. Donc ça, c'est ce que j'appellerais une pensée libérale qui ne se réduit pas aux producteurs et aux consommateurs, qui vise la défense de la propriété de soi de l'individu, ce qui peut conduire très bien à un libéralisme social, voire un socialisme libéral chez un auteur comme John Stuart Mill, par exemple. Néolibéralisme, c'est autre chose. Alors là, on aura peut-être un petit point peut-être de divergence pour creuser. Moi, je je suis un petit peu mal à l'aise avec l'usage qui est fait aujourd'hui de la notion pour décrire un certain nombre de phénomènes où effectivement ce qu'on appelle le néolibéralisme, c'est-à-dire cette idée que l'État doit intervenir de façon active pour protéger le libre marché, illustré par les figures de Hayek ou de Milton Friedman, a eu, c'est vrai, a connu son essor à partir du début des années 80 aux États-Unis avec Ronald Reagan. Ça s'est poursuivi d'ailleurs sous Clinton et Tony Blair. On baptise peut-être de néolibéral parfois, par exemple, bon, je ne suis pas une spécialiste de la Hongrie, mais quand j'en parle avec des spécialistes, on est plutôt dans une forme, c'est vrai qu'il y a une politique très antisociale, mais il y a aussi une forme de kleptocratie, une sorte de mercantilisme et d'affirmation des intérêts. On voit se développer de plus en plus, d'ailleurs, c'est des formes de mercantilisme identitaire. Et Trump était assez caractéristique à cet égard. Je ne suis pas sûr que Hayek n'aurait pas été horrifié par ces formes de concentration, d'affirmation de puissance. Est-ce que le terme de néolibéralisme est encore adéquat? Mais juste pour répondre plus précisément à ta question, il y a, et ça je maintiens, je pense que là-dessus on va se rejoindre avec Miguel, il me semble qu'entre le libéralisme classique qui fait prévaloir la liberté et l'épanouissement de l'individu et un mode de pensée qui fait prévaloir la liberté du marché, quitte à sacrifier l'individu, il y a plus qu'une rupture. Il y a vraiment... ce n'est pas une continuation du libéralisme, à mon sens.
Oui, alors on peut peut-être passer la parole à Michael Fossel sur la notion, et juste rajoute un point. Ce qui me semble assez important et parfois un peu perturbant dans les débats, et donc, notamment dans les mouvements sociaux, notamment dans certaines discussions, c'est l'idée de jeter le libéralisme avec l'eau du bain, c'est-à-dire dénoncer des politiques dites néolibérales avec les nuances qu'on peut faire, et dénoncer avec tout un courant de l'État libéral, de la pensée libérale, ou en tout cas nourrir une défiance, alors même qu'il s'agit peut-être justement d'une demande de démocratie au sens où on l'a définie jusqu'ici.
Oui, alors... Le néolibéralisme, je suis parfaitement en désaccord sur ce point avec ce que tu as dit, Justine. Le néolibéralisme, moi, je ne caractériserais pas du tout le régime d'Orban et encore moins celui de Trump par le terme de néolibéralisme. Parce que le néolibéralisme, d'une certaine manière, bon, moi j'ai beaucoup donné là-dedans dans la critique du néolibéralisme, mais comme c'est en voie d'extinction, il y a peut-être qu'en France, finalement, que au gouvernement, on continue encore à prôner l'idée d'une mise en concurrence généralisée ou d'une remise en cause, d'une privatisation relative des services publics comme une sorte de voie d'organisation de la société qui soit pérenne. Sinon, le néolibéralisme, d'une certaine manière, la parenthèse, me semble-t-il, qui s'est effectivement ouverte politiquement avec Reagan puis Thatcher, ou Thatcher puis Reagan d'ailleurs, la parenthèse se ferme, me semble-t-il. Le problème, c'est de savoir au profit de quoi, de quel autre ou nouvel élément politique. Et de ce point de vue-là, effectivement, il y a une réétatisation du capitalisme. Chez Trump, c'est tout à fait clair, un capitalisme d'État, je dirais, qui, évidemment, n'a plus grand-chose à voir avec la promotion, je dirais, quasiment mécanique et quasiment incantatoire du libre-échange. On voit bien qu'il y a aujourd'hui une reconcentration un peu protectionniste de l'économie capitaliste, dont le type de régime politique qu'elle va induire sera peut-être plus préoccupant encore du point de vue des libertés. Simplement, si on revient à cette notion de démocratie libérale, moi, il me semble que, et là, je vais parler du libéralisme comme tel que tu l'as défini, donc effectivement, la tentative qui est née à partir du début du 19e siècle de fonder l'État, au fond, sur la liberté des individus, le libéralisme ne me pose aucun problème du point de vue philosophique, il est consistant, évidemment. Simplement, il y a une certaine tentation d'y voir le monopole, du point de vue doctrinal, le monopole sur la liberté, sur le concept de liberté. Or, il y a, du reste particulièrement en France, mais pas seulement, et ça renvoie effectivement à l'histoire de la Révolution française, il y a des conceptions, je ne dis pas alors Alternative, évidemment, c'est toujours des conceptions qui mettent au centre et au cœur de la pensée politique le concept de liberté. Donc, le républicanisme, bon, aussi un terme, le terme république qui fait l'objet d'investissements symboliques et d'usages qui sont parfois éminemment discutables aujourd'hui, mais le républicanisme, disons de type ou d'origine rousseauiste, disons, c'est aussi une conception de la liberté. C'est aussi une conception qui place au centre l'édification du contrat social la liberté, mais qui se démarque de la conception libérale. Alors, pour le dire quand même simplement d'un mot, parce que ça renvoie quand même aussi à ce que c'est que le peuple, à la fin, quand on parle de démocratie libérale. Bon, la liberté des libéraux, c'est la liberté des individus, je schématise évidemment, hein, et je m'excuse par avance auprès de Justine au moins, c'est la liberté qui place la liberté des individus en deçà, et donc par conséquent aussi au-dessus, de l'État. Et qui donc, de ce point de vue-là, est tout à fait, effectivement, à la source d'une certaine conception des droits de l'homme, ce qui met les droits individuels, et disons-le quand même sans polémiquer à outrance, beaucoup du droit de propriété privé, au-dessus des atteintes potentielles des gouvernements. Or, ce qui est très intéressant, c'est pour ça que dans l'histoire politique française, au fond, on est assez bien placé, c'est que très vite, par distinction, et même par opposition en un sens, mais à l'intérieur évidemment du cadre démocratique, par opposition à cette conception de la liberté comme liberté des individus à faire valoir, je répète, contre les incursions potentielles de l'État et du peuple, parce que très vite le libéralisme est devenu une doctrine qui s'est fondée effectivement contre la monarchie absolue, mais après la Révolution française, après en particulier 1792-1793, Benjamin Constant est un bon exemple, le libéralisme c'est aussi l'idée que l'individu a à faire pas valoir des droits contre la collectivité du peuple, bon, et le grand ennemi de Benjamin Constant c'est Rousseau, eh bien il y a l'idée que la liberté, ça c'est l'idée républicaine je dirais, la liberté c'est d'abord celle du citoyen. Autrement dit, que la liberté est un concept politique, qu'elle n'est pas donnée en quelque sorte à l'individu. Bien sûr, elle est donnée dans sa naissance. L'homme est né libre et partout il est dans les fers. C'est la première phrase du contrat social de Rousseau. Mais la thèse de Rousseau, c'est finalement, si je devais la résumer pour distinguer de la thèse libérale, c'est celle qu'on entend d'ailleurs à tout bout de champ, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Autrement dit, c'est une conception de la liberté, si je puis dire, fondée individuel, chacun est dans son couloir, et au fond, les points de friction, c'est le moment où la liberté des uns empiète potentiellement sur celle des autres. De ce point de vue-là, elle est tout à fait défendable, hein. Ça va de soi, cette conception de liberté. La liberté républicaine consisterait plutôt à dire, et ce serait plutôt celle qui aurait ma faveur, que la liberté des uns commence là où commence celle des autres. Autrement dit, qu'on n'est pas libre seul. Que la liberté s'augmente d'être participé, d'être investi dans la citoyenneté, que le citoyen est davantage libre comme citoyen qu'il ne l'est comme individu, parce que, et ça c'est tout de même le point noir, me semble-t-il, enfin l'angle mort du libéralisme, et je dis bien du libéralisme politique, là on n'en est pas au néolibéralisme, l'idée de la liberté individuelle comme absolue, comme étant d'ores et déjà donnée à l'individu, fait abstraction des circonstances sociales, culturelles et même genrées de la naissance de cet individu. Autrement dit, il y a quand même dans le libéralisme l'idée que la liberté n'est pas politique. Elle serait plutôt un instrument depuis lequel on peut remettre systématiquement en cause toute forme d'obligation liée à l'État. Tandis que la liberté plus exigeante, du point de vue de Rousseau, peut-être trop exigeante, hein, pour la thèse de Constant, c'est que Rousseau, ça a donné Robespierre, hein, ça, c'est tout à fait sa thèse. Bon, lui-même a fini ministre, rappelons-le, sous les 100 jours de Napoléon, hein, après avoir expliqué que Napoléon, c'était la fin de la démocratie. Enfin, ça, c'est autre chose, chacun gère ses contradictions personnelles comme il peut. Mais enfin, néanmoins, l'idée que la liberté, elle est politique, c'est-à-dire qu'elle se conquiert, qu'elle n'est pas donnée, je dirais, naturellement seulement, mais qu'elle se conquiert contre quoi ? Eh bien, contre les inégalités, qui sont les inégalités aussi bien liées au social. Cette idée est beaucoup plus d'origine républicaine. Alors évidemment, on pourrait dire qu'on se bat là sur des bouts d'aiguilles, mais en réalité, ça me paraît fondamental à un moment où, précisément, on continue à parler dans des régimes, y compris de plus en plus souvent en France, à mes yeux, d'état de droit, de démocratie pleine et entière, alors même que les inégalités en particulier les inégalités sociales, ont un impact sur les libertés, sur l'usage. D'ailleurs, quand on parle de démocratie aujourd'hui, il faut évidemment aussi tenir compte du taux non seulement alarmant de certains partis d'extrême droite, mais aussi du taux alarmant de l'abstention, c'est-à-dire d'un désaveu de la démocratie dont on peut penser que précisément il est lié au fait que un grand nombre de citoyens ne se sentent plus considérés, concernés et peut-être même identifiés comme des citoyens ayant des droits.
Alors on reviendra peut-être après sur cette question du rapport à la démocratie, de l'abstention et de l'investissement d'un peuple ou de citoyens dans la démocratie, mais pour revenir sur cette distinction sur le ou les libéralismes, Justine Lacroix.
Oui, c'est peut-être une question de formation, parce que je constate avec mes collègues français, peut-être parce que je n'ai pas découvert le libéralisme par Thiers et Guizot, mais plutôt par Habermas et Rawls, j'ai une vision souvent beaucoup plus large, et je vais expliquer ce que je veux dire, beaucoup plus, peut-être plus large et plus généreuse du libéralisme politique au sens large. Je parlais de... Bon, je rappelle simplement que dans le monde anglophone, un liberal, c'est un progressiste. C'est quelqu'un qui est pour les droits des minorités, plutôt situé du côté gauche, pour autant que ça ait beaucoup de sens aux États-Unis de l'échiquier politique. Et ça peut être un social-démocrate convaincu. Donc ça n'a pas du tout la même connotation que ça en France. Mais au-delà de ça... moi, je ne serais pas tout à fait d'accord là avec ce que disait Michael, comme quoi il n'y aurait pas qu'au fond que la conception qu'auraient les libéraux, alors ça, évidemment ça dépend de qui on parle, serait moins politique. Il me semble que chez Benjamin Constant, même dans sa grande conférence de la liberté des modernes opposée à celle des anciens, il dit bien que la participation politique, effectivement, ne peut plus être notre occupation principale. Mais il s'inquiète de façon très très explicite que nous ne renoncions à dit-il, alors je ne me rappelle plus les mots exacts, mais c'est c'est le principal instrument de perfectionnement que le ciel nous ait donné, qui est l'exercice de la liberté collective. Chez Tocqueville, c'est évident aussi, cette insistance sur la participation politique, sur il ne cesse de réfléchir aux moyens. Alors, c'est très différent, et je n'ai pas dit du tout. Alors, par contre, je suis en accord complet avec Michael. Il ne s'agit pas du tout de dire que les libéraux ont le monopole de la liberté. Ce n'est pas une liberté au sens de Rousseau, à qui on sans doute... se joue ici des questions sur lesquelles on ne va peut-être pas rentrer ici, qui ont trait à la notion de corps politique et de souveraineté, sur lequel il y aurait un vrai désaccord. Donc non, les libéraux n'ont pas le monopole de la liberté. Michael l'a dit tout à l'heure, ils n'ont pas non plus le monopole des droits de l'homme. Là, c'est quand même quelque chose que je voulais rappeler. Les libéraux, d'ailleurs, au début du 19e siècle, se méfient beaucoup du langage des droits de l'homme. Pourquoi ? Parce que les droits de l'homme, c'est associé à la terreur et à Robespierre. Et il faudra longtemps, en fait, et pour dépasser cela. Et donc, les droits de l'homme, c'est d'abord Babeuf qui s'en... Et puis Robespierre. Et quand vous... en fait, la notion est assez peu invoquée. Même John Stuart Mill, quand il écrit « On Liberty », fonde toute sa défense de la liberté individuelle sur les intérêts permanents de l'homme, donc sur une sorte d'utilitarisme élargi, et pas donc ce n'est que rétrospectivement que nous considérons que l'invention des droits de l'homme, c'est une invention libérale. Non, ça précède la division socialisme et libéralisme. Et bon, voilà, ça c'est une des thèses que j'ai défendue avec mon co-auteur à plusieurs reprises, un argument, mon co-auteur Jean-Yves Franchet, cette idée que les droits humains, ils ne sont ni conservateurs, ni libéraux, ni socialistes, ils sont les conditions pour que le débat démocratique ait lieu et pour que ces différentes interprétations, différentes conceptions puissent se faire valoir.
Voilà, Michael Fassin, je ne sais pas si vous voulez réagir à ça ou passer à une question suivante. Alors, la question suivante, qui est évidemment très liée, c'est celle du peuple et de la souveraineté, thème qu'on a déjà rencontré dans la discussion, avec face au désaveu de certaines formes de libéralisme, face au sentiment d'impuissance démocratique, face au retour d'une forme d'autoritarisme dont vous avez parlé, il y a l'invocation du peuple, il y a l'appel au peuple, il y a l'invocation d'une forme de souveraineté populaire, avec tout évidemment là aussi le passé de signification et d'usage que cela recouvre. Et voilà, je voulais avoir votre avis sur les sens contemporains qu'on peut avoir et qui peuvent ou pas recouper les distinctions précédentes. Michael Fossel, peut-être d'abord.
Oui, ben c'est d'ailleurs, la question est quand même liée parce que, on parle des droits de l'homme, mais rappelons que c'est les droits de l'homme et du citoyen, justement. Et donc, il y a déjà même dans la formulation quelque chose comme, évidemment pas une opposition, mais une tension entre, ce qui fait que nous sommes des hommes et que nous sommes des humains, d'ailleurs, il faudrait évidemment aussi faire le bilan, je dirais, de ce terme, en regard des problématiques aujourd'hui de genre. Enfin, que nous sommes des humains de toute éternité ou de nature, et puis ce que la citoyenneté ajoute ou accompli, ou peut-être modifié aussi dans ses droits. Et là, citoyens et peuple, d'emblée, on est quand même renvoyé aussi à la question de la démocratie. Parce que, évidemment, l'argument, si on revient à la question initiale, des partisans, alors, de ce que, par facilité de langage, admettre des démocraties libérales, comme Orban, et aussi, de plus en plus souvent, tous les partis, d'ailleurs, d'extrême droite, qui oppose aujourd'hui, y compris en France d'ailleurs, oppose très clairement démocratie et état de droit. L'état de droit étant apparaissant comme au fond un obstacle à la souveraineté, disent-ils, du peuple. Bon, alors évidemment, tant qu'on n'a pas défini le peuple, et ce qu'on ne leur demande pas de le faire, on est victime de ce qui me paraît être évidemment tout à fait évident, à savoir que la démocratie suppose la souveraineté du peuple, ou repose en grande partie sur la souveraineté du peuple. Simplement, évidemment, la conception que l'on se fait du peuple décide de savoir, à mon sens, si l'on appartient ou pas véritablement au champ démocratique. Car le peuple d'Orban, et le peuple de Le Pen, c'est le peuple, c'est le bon peuple, si je puis dire, c'est le peuple de naissance, c'est le peuple de tradition, c'est le peuple éventuellement de langue, c'est le peuple d'ethnie, en tout cas, c'est pas le peuple de volonté. Or, la définition démocratique, et je dirais même ici rousseauiste républicaine du peuple, c'est que le peuple est une institution. Le peuple n'est pas une donnée naturelle, une donnée culturelle, une donnée ethnique. On ne devient citoyen du peuple précisément que par le contrat social, c'est-à-dire, selon la belle formule de Rousseau, la vraie question politique, c'est quel est l'acte par lequel un peuple devient un peuple. Voilà. Quel est l'acte, je dis bien l'acte, et non pas la naissance, non pas la langue, non pas le discours. Or, dans tous les discours, alors qu'on appellerait aussi, d'utiliser une terminologie que je réprouve un peu, les discours dits populistes, qui se réfèrent au peuple, il y a ou un impensé, ou d'ailleurs de moins en moins aujourd'hui, disons les choses, il y a au moins le mérite qu'ils avancent de plus en plus à visage découvert, c'est que on va très vite sur la définition de ce que l'on entend par peuple. Mais quand on demande des détails, en réalité, le peuple, c'est pas seulement, comme le fait croire justement le concept de populisme, je me réfère au peuple contre les élites. Les élites, c'est aussi les juges, c'est tous ceux qui précisément sont censés être des opposants à l'application rigoureuse de la volonté majoritaire, de la volonté du peuple. En réalité, tous ces discours dits populistes sont des discours, en fait, traditionnellement, je dirais, d'extrême droite, puisqu'ils opposent en vérité non pas les peuples et les élites, mais un bon peuple, un mauvais peuple, les étrangers, dont les élites seraient le supporter inavoué, en quelque sorte. Et donc, de ce point de vue-là, ça fait passer à l'intérieur même du peuple, c'est-à-dire de la source, à mes yeux, il n'y en a pas d'autre, de la légitimité démocratique, à l'intérieur du peuple, un clivage, qui est un clivage qui a cette particularité de ne pas pouvoir être dépassé. Parce que si on n'est pas français de souche, et si on va encore dans des régimes où c'est beaucoup plus avancé que le nôtre, si on n'est pas hongrois de souche, eh bien, évidemment, on n'a aucune chance de pouvoir réintégrer ce peuple. C'est là où il y a quelque chose qui est, au fond, éminemment perfide dans la revendication démocratique ou soi-disant populiste de ce type de mouvement ou de ce type de régime, puisqu'ils existent d'ores et déjà même en Europe, c'est au nom de la souveraineté populaire en réalité d'exclure et en droit, pas seulement en fait, d'exclure en droit du peuple des individus que l'on considérerait, alors si on parlait le langage justement bon, d'un certain libéralisme initial, comme des citoyens passifs, hein, comme des individus qui n'auraient pas vocation à devenir membres du peuple. Autrement dit, il me semble que pour repenser la démocratie, pour essayer autant que faire se peut d'ailleurs de redonner aux citoyens le goût pour elle, il faut commencer par partir de là, c'est-à-dire de savoir qui appartient au peuple, comment cette appartenance se caractérise et quels sont ensuite les droits qui sont attenants à ce type de citoyenneté. Mais concevoir que le peuple est là, existe et au fond n'est pas jamais interrogé dans la manière dont il se constitue me paraît être aujourd'hui un des cœurs du problème.
Oui, alors moi je suis tout à fait d'accord. Je voudrais juste peut-être préciser parce que Michael a plusieurs reprises indiqué ses réserves sur le terme de populisme. Je crois que je les partage. Je vais peut-être pas les. Enfin, en tout cas, je vais tenter de les déplier parce que dans ce qu'il faut quand même bien garder à l'esprit que. En démocratie, il me semble parfaitement légitime d'en appeler au peuple. Je ne vois pas très bien à quoi on pourrait en appeler d'autres. Et ce qui me gêne aujourd'hui, c'est que parfois, on définit comme populiste le fait d'en appeler au peuple et de dénoncer les privilèges ou la corruption des élites. La définition me paraît assez courte, et c'est pour ça que je suis très mal à l'aise avec cette notion de populisme, parce que en démocratie, on ne va pas en appeler à la volonté divine, on va en appeler au peuple, et la dénonciation des privilèges de corruption des élites, c'est une constante de toutes les luttes démocratiques depuis 2000 ans. Et donc, c'est la raison pour laquelle, en tout cas, moi, je me méfie de cette notion. Et on peut rappeler aussi qu'à l'origine, le mot populiste désignait des mouvements très démocratiques. Hein. C'était notamment les mouvements populistes aux États-Unis. Alors, après... De quel peuple est-ce qu'on parle ? Ce qui est intéressant, c'est quand Michael rappelait que chez Rousseau, le peuple est un acte, il y a l'institution d'un acte, ça me faisait penser à une autrice qui pourtant critique violemment Rousseau, s'oppose aux conceptions rousseauistes, mais c'est quand même aussi Hannah Arendt quand elle définit le monde commun par l'action des hommes entre eux. Je veux dire, en tout cas, ils se rejoignent, si je me permets, je pense qu'ils se rejoignent quand même là-dessus, même s'ils avaient des conceptions, notamment sur la pluralité, sur la souveraineté, qui sont très, très différentes. Enfin, ils avaient des conceptions. Arendt se différenciait de Rousseau sur ce point très fort. Disons qu'on est au plus loin, dans les deux cas, d'une conception identitaire du lien politique. La citoyenneté se construit, la communauté politique, elle naît. C'est une construction de l'action collective des hommes entre eux. Et c'est vrai que quand on dit peuple dans ces mouvements d'extrême droite, toute chose, qu'est-ce qu'on a derrière la tête ? C'est l'idée d'une identité. C'est, en fond, le peuple est défini par l'affirmation d'une forme d'homogénéité, de ressemblance. Et c'est très clairement un modèle qu'on trouve le premier grand auteur qu'on pourrait dire réactionnaire ou d'extrême droite, je ne sais pas, c'est Carl Schmitt. Ça va être le premier au fond auteur qui va s'approprier le terme de démocratie en transformant radicalement le sens, puisque la démocratie est désormais définie par le principe d'homogénéité ou d'identité. Alors qu'elle renvoyait avant cela au partage ou à l'expression d'une volonté politique, ce qui est très différent.
Oui, pour juste rebondir sur cette notion d'homogénéité du peuple.
Tu veux le mien ?
Merci. Pour rebondir sur cette notion de peuple 1, d'homogénéité du peuple, tout le stratagème rhétorique d'un Schmitt, d'un Karl Schmitt, et puis vous mettrez les noms des hommes et femmes politiques du moment que vous voudrez, consiste au fond à jouer sur deux tableaux, c'est-à-dire sur l'unité, l'homogénéité absolue du peuple. Le peuple ne erre pas, le peuple ne peut pas se tromper, d'une certaine manière il pourrait se revendiquer d'un certain Rousseau, mais il y a toujours évidemment à présupposer dans leur discussion, c'est que cette homogénéité du peuple se base ou se constitue par l'exclusion d'une partie partie substantielle d'ailleurs, des individus. Puisque l'homogénéité se définit par un clivage entre la pureté, d'une certaine manière, et des éléments considérés comme hétérogènes, comme importés, comme et qui ne sont pas d'ailleurs seulement ou exclusivement les étrangers. Hein. Cela peut être aussi dans, et on l'a vu d'ailleurs en Pologne, ça a été d'ailleurs par ce biais-là que le mouvement d'extrême droite. Le gouvernement d'extrême droite a échoué par l'exclusion d'une partie des femmes, puisque c'est sur le droit à l'avortement que c'est joué, et ça sera peut-être le cas dans le meilleur des cas aux États-Unis aussi, que c'est joué leur défaite. C'est-à-dire que tout de même, il y a dans la population, pour employer un terme neutre, une grande partie des citoyens et des citoyennes qui n'admettent plus ce présupposé consistant à dire qu'ils ou elles sont des citoyens de seconde zone. Maintenant, le fait est que, et ça serait un point pour le coup, je ne serais plus forcément rousseauiste, mais on discutera de savoir si c'est compatible avec Rousseau, mais peu importe, c'est effectivement, même le peuple défini politiquement, même défini comme contractuellement, comme l'acte par lequel les citoyens décident de s'emparer de la chose publique, n'est pas un peuple un. C'est un peuple qui est divisé, simplement il est divisé par ses intérêts. Il n'est pas divisé fondamentalement par sa nature, ou par les individus qui le constituent de manière naturelle. Et ça, là, de ce côté-là, c'est aussi une référence, je crois, commune, je suis sûr même, avec Justine, c'est du côté de Claude Lefort qu'il faut se tourner, c'est-à-dire d'un des rares penseurs, je dirais, de la démocratie comme telle, et pas seulement de la République, ou pas seulement du libéralisme, c'est-à-dire celui qui a précisément montré que la démocratie moderne, contemporaine, reposait sur la dissolution des repères de la certitude, comme il le disait, c'est-à-dire, au fond, l'idée que l'indétermination démocratique, nous ne pouvons plus dire « là est le peuple hein. ». Le peuple, même si on le définit, je dirais, de manière strictement politique. Mais parce que dans ce que nous appelons le peuple, il y a évidemment pas seulement des individus, mais des collectivités, des organisations, des associations, des groupes d'intérêt, ou tout simplement d'ailleurs, dans le sens noble du terme, des partis politiques, la division sociale, la division du peuple, qui n'est pas une bonne chose, mais qui n'est pas une mauvaise chose, mais qui est même structurellement liée à la démocratie, elle se manifeste dans l'existence de partis politiques, et comme le mot l'indique, partis, hein, cela veut quand même dire qu'il n'y a pas ici d'unité. D'ailleurs, la crise des partis, la substitution aux partis de mouvements, dans tout le registre, dans tout le champ, pardon, électoral, les trois principaux partis électoraux sont des mouvements. Bon, et je ne les mets pas sur le même plan, loin s'en faut. Cela étant, il y a quand même cette idée derrière que les partis, ça a mauvaise presse, ils ont fait beaucoup pour avoir mauvaise presse, les partis de gouvernement, comme on dit. Mais parce que justement, il y a toujours cette idée, au fond, nous allons représenter, nous, l'unité du peuple. Non, en réalité, et là, ça renvoie aussi à une autre notion, enfin, une autre dimension, pardon, du concept de peuple, c'est qu'évidemment, c'est déjà dans le mot latin, plebs ou populus. Quand on dit le peuple, quand on dit les classes populaires, évidemment, on entend là une dimension sociale. C'est les plus pauvres, c'est la majorité en tant qu'elle n'est pas propriétaire. Bon. Alors que populus, c'est l'intégralité du peuple. Alors qu'est-ce qu'on fait avec cette distinction, cette nuance? J'aurais tendance à dire, on fait avec. C'est-à-dire, quand on va jouer la plebs contre le populus, parce que ça reviendrait de ce point de vue-là à nier la dimension politique du peuple, en excluant, bon ça c'est rarement fait dans l'histoire, hein, mais en excluant les plus riches de la citoyenneté, mais on ne peut pas non plus faire comme si le peuple, ce n'était pas majoritairement et de plus en plus la plebs. C'est-à-dire, bon, si ce n'est pas la plèbe peut-être, mais c'est-à-dire s'il n'y avait pas une paupérisation dans les périodes de crise économique, une explosion des inégalités. Donc il y a effectivement tout de même, dans l'idée d'un appel au peuple, un appel aussi à quelque chose comme une légitimation démocratique qui passe par la lutte contre les inégalités sociales et les injustices sociales. Le droit social fait partie aussi, en tout cas c'est une discussion qu'on peut avoir, des droits de l'homme. D'ailleurs, en 1793, la Constitution, la Déclaration des droits de l'homme de 1793, c'est surtout ça qu'on n'a pas pardonné à Robespierre au-delà de la terreur, c'est d'avoir essayé ou tenté d'inclure dans cette déclaration des dimensions sociales.
Oui,
juste une phrase à rajouter. Oui, juste une phrase, parce qu'effectivement, ça me semblait important, Michael a introduit la dimension sociale, c'est curieusement éclipsé des débats contemporains, mais ça a été une évidence dans la pensée sur la démocratie depuis l'Antiquité jusqu'à la pensée libérale du début du XIXe siècle, y compris en passant par l'humanisme civique, que la démocratie n'était possible que là où il y avait une relative égalité, ou pour le dire de façon moins volontariste, que la démocratie n'est pas un régime envisageable là où il y a des inégalités abyssales entre citoyens. C'est, chez Aristote, la démocratie a pour le régime qui a pour intérêt qui a pour intérêt les pauvres. Et donc je dirais même, alors peut-être qu'il y a eu une cécité de certains libéraux, surtout Tocqueville notamment au XIXe siècle, moins qu'on puisse dire, par rapport à la nécessité d'avancée sociale ou de droit au travail, mais je pense qu'il y avait cette croyance un peu naïve, peut-être qui nous paraît aujourd'hui un peu naïve, que les inégalités allaient ce qu'elles ont, elles ont fait d'ailleurs, elles ont diminué pendant longtemps. Et le mouvement aujourd'hui d'accélération des inégalités, il me semble qu'on ne réalise pas à quel point une démocratie ne peut pas tenir comme ça. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on a compris ce régime politique.
Juste un petit mot. Je veux pas accaparer, mais c'est juste pour aller compléter ce que vient de dire Justine par un exemple. Parce que cette opposition, alors, bon, l'EPS, Populus, ou disons le social versus le politique, ou l'appartenance à telle ou telle classe sociale versus l'appartenance générique à la citoyenneté, c'est une opposition utile pour penser, évidemment, mais qui me paraît assez abstraite quand on regarde en particulier ce que sont les mouvements sociaux. Nous ne parlons que de la France, depuis à peu près une décennie. Si pour prendre trois mouvements sociaux, enfin trois, disons, manifestations de type totalement différent, sociologiquement en particulier, donc on insiste en général à l'envi sur leurs différences sociologiques, à savoir Nuit debout, les Gilets jaunes et les manifestations contre la réforme des retraites, ce n'est pas alors, on va dire, le même peuple, sur Gilets jaunes et Nuit debout en particulier, mais ce sont des mouvements qui ont tous eu des manifestations, des protestations, qui ont tous eu une origine sociale, parce que même Nuit debout, ça venait de la réforme de la loi du travail. Les Gilets jaunes, c'était sur la question, entre autres, ce qui a été déclencheur de la hausse du carburant. La réforme des retraites, ça va de soi. Ce sont tous des mouvements sociaux qui ont, mais de manière quasiment instantanée, enfin, en tout cas, en l'espace de quelques jours, eu des revendications de type institutionnel et politique, que l'on peut partager ou pas. Bon, mais Nuit debout, c'était la démocratisation, je dirais, au sens d'une participation plus active. Les Gilets jaunes, le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, et la réforme des retraites a été en quelque sorte, la critique, la manifestation contre la réforme des retraites, immédiatement requalifié, ça n'enlevait pas le caractère social, par une critique du 49-3 et donc d'un règlement, je dirais, purement administratif ou exécutif de la question de la loi. Autrement dit, pour finir sur quelque chose qui est peut-être, qui donc ne fait pas que ça va être facile à concilier toutes ces exigences, que les Gilets jaunes sont prêts à aller place de la République ou que les gens de la Nuit debout seront prêts à aller sur les ronds-points, bon, tout ça c'est autre chose. Mais par contre, ce qui est important et qui peut-être d'une certaine manière est peut-être aussi réconfortant, mais malheureusement a échoué dans les trois cas, c'est que aujourd'hui la demande de lutte contre les inégalités sociales ou même la résistance à l'égard de réformes qui sont encore là pour le coup des réformes de type néolibéral, elle se traduit presque immédiatement en demande démocratique. elle se traduit immédiatement en exigence du point de vue du sentiment de ne plus être représenté, d'être mal représenté ou de ne plus participer activement à la vie démocratique. Autrement dit, si ressourcement de la démocratie il doit y avoir, il se fera aussi, me semble-t-il, par l'approfondissement de la question des inégalités sociales. Et là, c'est une démonstration, à mon sens, quasiment chimiquement pure, que on ne peut pas séparer la lutte pour les droits sociaux de la lutte pour les droits politiques, ce qui a été l'un des drames fondamentaux de la gauche, et surtout de la gauche communiste, dans l'histoire, de considérer qu'au fond, on pouvait envoyer les droits de l'homme et les droits institutionnels un peu par-dessus bord, au profit simplement de batailles économiques.